bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus avec Léa Kudo-Brunelli.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Daniel Morin.
Bonjour monsieur.
Albert Aldo.
Bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Pasturo.
Bonjour.
Nos invités en live, Plaza Francia Orchestra et Catherine Ringer. Et notre invité pour son livre, Jean-Pierre Jeunet. Bonjour Jean-Pierre, ravi de vous accueillir à ce micro. Je me demande, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on se retrouve
à ce
micro.
Si, c'est la première fois.
Oui, absolument.
Nous sommes déjà croisés, mais pas au micro d'Inter. Nous allons parler de vos souvenirs. 500, je me souviens, anecdotes de tournage, mais c'est encore plus fort que ça. Ce sont pas que des anecdotes de tournage, j'ai l'impression que c'est une sorte de biographie, parce qu'on voit vraiment votre vie se dérouler de l'enfance à aujourd'hui. Alors évidemment, c'est émaillé des grands films d'Amélie, d'Alien, de La Cité des Enfants Perdus, de toutes vos velléités d'animation, même de vos participations à des jurys, mais c'est une manière de vous raconter ces souvenirs, c'est vous.
C'est des petites cacahuètes, ouais. Quand on peut picorer, c'est un petit peu comme les Braves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, un petit peu.
Oui, mais plus à jeun.
Plus à jeun.
On est resté aux cacahuètes, pour savoir.
Non, plus à jeun, parce qu'il y a des choses absolument incroyables, d'abord de voir comment votre vie a été faite... Je veux pas dire de hasard ou de chance, mais d'opportunités que vous avez su saisir, en fait. Mm-hmm. C'est ça?
Oui, oui. Par exemple, ma rencontre avec Marguerite Duras, qui est quand même un grand moment, ouais. Je raconte dans les couloirs d'une maison de post-production. Je la rencontre, je lui marche sur les pieds, elle dit aïe, j'ai dit pardon. Voilà. Belle rencontre, un grand moment.
Heureux hasard. Oui.
Comme disaient des proches, Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé aussi.
Et puis il y a aussi des rencontres, des regrets de ne pas avoir franchi le pas, parce que finalement on vous sent extrêmement timide face à des grands noms, en tout cas à des personnes que vous admirez, que vous aimez.
Ah, oui.
Vous n'osez pas serrer la main, vous n'osez pas aller vers...
Ouais. Ça c'est un grand regret de ma vie, c'était mon premier César pour un court-métrage qui s'appelait Le Manège. Et Truffaut était là, assis sur les marches de Fouquet's, fatigué à la fin de la soirée. Il en avait gagné une dizaine pour Le Dernier Métro. Et j'avais envie d'aller lui dire, vous voyez, si j'en ai un aussi, c'est un peu grâce à La Nuit Américaine que j'ai vue quand j'étais gamin à Nancy. J'ai pas osé. Et ça, je le regretterai toute ma vie. Je me suis rattrapé avec Claude Berry à la fermeture de la Cinémathèque. Il était déjà malade et j'ai eu le courage d'aller lui dire tout. Alors, il a eu peur quand je me suis approché parce qu'il avait refusé de produire Amélie. Alors il a reculé. Il a pensé que j'allais l'engueuler un peu. Et je lui ai dit, Claude, tous les ans, je revois Jean de Florette et Manon Dessources dans Le Luberon.
Et avec, je crois que c'est De Niro de
Non, il ne joue pas dans Jean de Florette, De Niro.
C'est Daniel Auteuil.
Vous n'avez pas osé le voir, c'est finalement lui qui est venu vous voir, non?
C'était Scorsese.
Scorsese, pardon. Scorsese.
Ah, ça m'a fait plaisir quand même, quand vous avez Scorsese qui vient vous voir. Je me suis prosterné devant lui, mais il a éclaté de son rire tonitruant à la Scorsese.
Jean-Pierre, vous êtes quoi? Vous êtes timide? C'est par politesse?
Non, on a toujours l'impression d'être un imposteur un peu, non?
Oui,
sinon.
On l'est tous, hein, oui, bien sûr.
Surtout auprès des Américains, j'ai l'impression. Surtout auprès des Américains, parce que c'est un peu Hollywood, c'est...
Oui, mais là, c'était tous les jours. À chaque fois que je passais la porte du studio, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je me pinçais, quoi. Et puis j'éclatais de rire, mais ça, c'était...
Des anecdotes incroyables sur les tournages, sur la manière dont ça se passe, sur les rencontres, sur Harvey Weinstein qui il prend cher. Hein, ça c'est clair que vous ne l'aimez pas, mais j'ai envie de dire vous ne l'aimez pas dès le début. Vous n'allez pas spécialement dans le sens légitime d'ailleurs de tout le monde aujourd'hui de tirer à boulet rouge sur Weinstein. Déjà lorsqu'il vous avait demandé de couper dans un film avec Caro, dans Délicatessen, vous aviez carrément dit, bah, vous savez quoi, vous avez qu'à couper nos noms au générique.
Absolument,
aussi, et c'est
oui,
fini.
Oui.
Quoi.
Et j'avais là, on
osé,
a eu des menaces.
Osé lui répondre.
Vous aurez des nouvelles d'Harvey Weinstein. Et j'étais sûr que j'allais retrouver la tête de mon chien coupée dans mon lit. dans le parrain, quoi. Ouais. Non, mais c'était un homme qui en fait avait besoin de posséder tout le monde, pas que les femmes, aussi les auteurs, en remaniant leurs films.
Un dominateur.
L'Académie des Oscars, née d'Amélie, il a été boycotté par l'Académie. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il faisait, il envoyait des chèques pour acheter les voix. Donc maintenant, ça se sait. Donc il avait été boycotté, manque de chance, c'était l'année d'Amélie. Alors là, j'aurais bien aimé l'avoir,
cette statuette dorée. Et c'est lui qui distribuait Amélie aux États-Unis.
C'est lui qui le distribuait, oui. Mais là, celui-là, il n'a pas osé le couper, parce que vu le succès, il n'a pas osé le toucher.
Donc il faisait des chèques pour acheter les voix.
Mais oui, bien sûr, mais tout le monde le sait.
Mais tout le monde le sait, mais personne ne le disait.
Eh ben moi, je le dis.
Voilà. C'est ça.
Alors que ça se fait nulle part ailleurs, ça.
Non.
Non, jamais.
C'est que en liquide au César. T'as pas le droit de faire de chèque.
Vous parlez d'une époque aussi où vous étiez payé à coups d'enveloppe de billets.
Un producteur
jeter l'argent par les fenêtres. Ouais. Ouais, c'était un petit truc d'animation.
Astrolabe 22.
Produit par un pays du Golfe. Et le directeur de production qui était malade me balançait l'argent par la fenêtre dans une enveloppe quand même.
Bien sûr.
Et avec ce sens de l'humour de Jean-Pierre Jeunet, c'est la première fois que je voyais un producteur vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Parce que tout est drôle, tout est vivant. On voit clairement votre amour pour le cinéma, évidemment, pour la création, pour les comédiens. Vous avez moins d'empathie pour les sociétés, on va dire, de production ou de marketing, parce que vous avez été ballotté. Il y a des projets qui ont clairement été refusés.
Comme tout metteur en scène, je pense, oui.
Oui, mais je pense notamment à Alien. Déjà, quand le numéro 2 de la compagnie, c'est 20th Century Fox, vient annoncer au numéro 1, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, j'ai une bonne nouvelle, on a un réalisateur, j'ai une mauvaise nouvelle, il ne parle pas anglais.
Oui.
Ça commençait mal quand même pour vous.
Ça commençait pas très bien, oui. Mais moi, j'y allais, mais vraiment par curiosité. J'étais sûr que j'allais le virer au bout de 2 semaines, de toute façon. En plus, j'étais en train d'écrire Amélie, j'avais pas envie de faire ça, quoi. J'aurais pu détourner l'avion quand ils m'ont emmené définitivement à Hollywood, je l'aurais fait, quoi. Heureusement, je suis passé par New York pour voir Sigourney Weaver. Et il se trouve, hasard, que sa nièce lui avait envoyé une lettre pour lui dire qu'elle venait de voir un film extraordinaire qui s'appelait La Cité des Enfants Perdus. Ouais. Mais c'est des coïncidences, parfois ça arrive dans la vie. Elle l'avait pas vu, elle, en plus. Donc elle était très chaleureuse, ça m'a donné la pêche, et voilà, j'ai fait le film.
Et vous racontez dans une anecdote de tournage.
Ouais, génial, ça donne envie de revoir les films, en fait.
Le basket
le panier. À l'envers.
Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a le panier à l'envers dans le film. Vous, directeur d'animation et d'effets spéciaux, vous préparez une machine, des effets. Vous vous dites comment faire pour qu'elle envoie. Elle est à combien? À quelle distance du panier?
Une quinzaine de mètres.
À 15 mètres. Donc, dos au panier de basket, envoyer un ballon comme ça derrière sa tête pour que le ballon rentre dans le panier. Donc, vous préparez tout, vous calculez tout.
Oui.
Les probabilités sont fines quand même.
Mais c'est impossible.
Bah oui.
Non, mais si, ça peut arriver. Mais
c'est la preuve.
Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle le voulait tellement. Elle l'a fait. Il n'a même pas touché l'arceau. Il est passé
un switch.
Direct. Ouais. Ouais. Et Ron Perlman, qui était en dessous, était tellement stupéfait qu'il a tourné la tête au montage. On avait tout juste de quoi monter, sinon on le voyait qui tournait la tête en rigolant. Et
Pitoff, il y a de quoi avoir la larme à l'œil, finalement, ouais. de réussir ça du premier coup.
Et
d'ailleurs, il en a pleuré.
Et d'ailleurs, votre notion de justement ce que vous racontez sur le montage et sur la manière de sauver une scène ou de la garder, souvent, et d'ailleurs vous nous encouragez à revoir le film en disant regardez dans tel plan, il y a un tuyau d'arrosage qui est resté dans un coin où
pas de sucre dans la main,
ou ainsi de suite, parce que la prise était bonne et que finalement, s'il y a une espèce de détail que les enculeurs de mouches, allez, j'ai pas d'autres termes qui viennent à l'esprit, ils disent, vous avez vu ça sur
le tableau,
vous dites, allez, c'est pas grave, l'important c'est que la scène soit la bonne prise, celle que je voulais.
Mais j'hésite pas à raconter tous les petits aléas, les petits malheurs, les trucs, parce que mon plaisir, moi, c'est de faire, c'est de fabriquer. Et c'est un truc que j'ai toujours partagé avec Marc Caro et qu'on essaie d'inculquer aux étudiants, tout ça, le plaisir de faire, just do it. Voilà. Souvent, les étudiants me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être metteur en scène. Je leur dis, tu veux être ou tu veux faire? Pose-toi la bonne question.
C'est joli.
Être ou faire.
Bien sûr.
Et nous, on a toujours eu le plaisir de faire. C'est pour ça qu'on fait des storyboards, qu'on bosse. On adore travailler.
Ça vous a sauvé d'ailleurs les storyboards, vous dites. Le fait d'avoir tout dessiné, c'était une force.
Je sais pas si ça m'a sauvé, mais c'est
un avantage.
C'est une façon de travailler, de communiquer par des images plutôt qu'avec des mots. Et puis en même temps, le bonheur, c'est de tout changer au dernier moment si on a une meilleure idée.
Et puis on le voit aussi dans votre manière de faire des films. Il y a beaucoup d'hommages. Il y a beaucoup de références. Et d'ailleurs, vous les citez. Vous dites, j'ai fait telle scène. Évidemment, c'est en hommage à tel film. Alors, c'est pas piqué. C'est plus salué.
Ouais, piqué, c'est désagréable. Ouais. Ça arrive qu'on pique sans s'en rendre compte. Moi, j'ai horreur de ça quand je m'en rends compte. Mais il y a souvent des hommages. Alors, après, il y a aussi des gens qui ont rendu hommage à nos films. Très souvent, même.
Lesquels? Dans des publicités, par exemple.
Ouais, des publicités. Ouais. Un certain Guillermo del Toro, il n'y a pas longtemps. Guillermo, oui, Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro.
Si.
Dans le film ou dans le Shape of Water?
Shame of Water.
Shame.
Ah, c'est ça.
Ah bon, à quel endroit?
Il y a 2 petites scènes de délicatessen qui sont un peu copiées-collées, mais je lui ai écrit parce que c'est un ami, je lui ai dit, mais Guillermo, t'as pas besoin de faire ça, t'as assez d'imagination. Et j'ai eu le malheur de faire une petite interview, je m'en suis pris plein la tête.
Aye.
Alors que je m'en fiche franchement, Coco Chanel disait, tout ce qui n'est pas volé n'est pas intéressant. Donc, c'est flatteur.
C'est bien ça. Alors, justement, à propos de Coco Chanel, il y a les réclames aussi, comme vous dites. c'est pas des pubs, c'est des réclames.
Oui, c'est un peu. La dérision, quoi.
Non, non, mais ce sont des publicités qui ont marqué la mémoire collective, que ce soit celle avec Depardieu pour des pâtes, où vous pouvez passer des heures et des heures à caler penne et bout de tomate cerise sur une fourchette.
Ça, oui, ça et l'assistant du coup de foutu en l'air au moment de tourner.
C'est ça. Jusqu'à la pub Chanel avec Audrey Tautou, ce qui est un peu... Avec l'accueil de Karl Lagerfeld, puisque tout le monde avait peur de son jugement quand il venait sur le tournage, et il a été adorable avec vous, et tout le monde était surpris d'ailleurs sa gentillesse.
On discutait comme de vieux potes, mais enfin moi je le connais pas, donc je parlais normalement, puis après tout le monde m'a dit « mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais on l'avait jamais vu parler comme ça !»
Et pourtant il aimait pas Audrey Tautou.
Disons que ça aurait pas été son choix, je pense.
Ouais. Ouais. Non, mais je crois qu'il a même dit dans une interview qu'elle ne saurait jamais gérer Chanel. Oui, c'est un peu violent, ça.
C'est vrai qu'un jour, elle était contente d'avoir porté des petites bottes Chanel. Alors peut-être qu'il a été un petit peu vexé. Il s'attendait à autre chose que les petites bottes.
Mais vous allez avec votre caméra dans un train pour filmer.
C'est un tournage de malade pour un spot qui dure quoi, 30-40 secondes.
2 minutes et demie quand même.
C'est un petit film.
C'est 15 jours de tournage quasiment.
3 semaines, plus une semaine d'essai. Non, mais on a fait ce qu'il fallait.
Mais prendre un train pour filmer les effets de la lumière, puis se rendre compte...
Pas n'importe lequel, le Venise-Saint-Plon Orient Express.
Voilà,
250 000 euros pour 2 jours.
Wow. Et se rendre compte que les vibrations...
Non, pas pour rien.
Si, il y a une fois où vous montez dans un train, mais vous rendez compte que les vibrations seront trop importantes pour la caméra, donc ça ne sert à rien, et vous êtes coincé, le train est parti.
Mais ça, c'est le vrai qui va à Venise. Celui-là... Je me rends compte au bout de 10 secondes que j'ai pas assez de lumière, que je pourrais rien filmer, le train il roule déjà trop vite sur le quai, j'ai pas osé sauter, je me suis tapé tout le voyage pour rien.
Non, il y a des histoires, c'est une vie incroyable. Enfin, moi j'ai adoré ce livre, c'est à la fois les petites histoires qui font la grande histoire du cinéma. On voit très bien les films dont vous parlez. Et on a envie de les revoir.
Alien, pour le coup, moi je suis une grande fan de Sigourney Weaver. Et imaginez cette actrice sur le tournage qui s'amuse à rester sous l'eau un maximum de temps. Parce que tant qu'elle n'est pas revenue à la surface, ses camarades de jeu ne peuvent pas non plus revenir à la surface. Je me dis, mais en fait, vous êtes sur un tournage d'un film culte. Et en fait, c'est hyper potache.
Elle fait des blagues sous l'eau en apnée.
C'est complètement potache.
Surtout que Winona Ryder avait failli se noyer quand elle était gamine, elle était totalement paranoïaque avec l'eau, donc elle a bien dû flipper le jour.
Ouais, c'est toutes ces anecdotes-là, moi, qui m'ont passionnée. C'est vrai que ça se lit, ça se feuillette.
C'est ça, on peut picorer, puis piocher au hasard.
Et vous faites des clins d'œil d'ailleurs à vos propres films aussi dans certains endroits. C'est le cas par exemple de Louison et Julie qui jouent violoncelle et scie musicale. Ça, c'est
dans Micmac attire l'arigot.
Voilà.
En fait, ça devait être autre chose et puis on n'a pas eu l'autorisation d'un produit, donc j'ai dû improviser à la dernière minute. Voilà. Absolument pas intéressant ce que je dis.
Petite
plus-value quand même.
Non, mais il y a plein de petites choses comme ça qui relèvent en fait de votre vie personnelle. On pourrait s'en foutre. Okay. On pourrait s'en moquer, mais en fait, c'est dans la continuité. Moi, j'ai appris par exemple pour que les acteurs évitent de faire de la buée quand il fait froid dehors, on leur fait sucer des glaçons.
Ouais.
C'est des trucs comme ça, quoi. En soi, c'est pas l'information
du siècle. Et pourtant, il a tourné avec des acteurs qui suçaient pas avec des glaçons.
Ça, je veux pas savoir.
Non, et puis il y a le truc le plus improbable. Alors là, j'ai vraiment envie de revoir le film, mais presque de faire image par image, ce qui serait pas très fair play vu ce que vous expliquez dans votre livre. C'est T.S. Pivet, c'est-à-dire ce film, vous repérez un gamin pour faire ce film. Ce gamin est pratiquement engagé pour tourner dans une série. Mais il est engagé que pour faire un pilote dans un premier temps. Si le pilote est un succès, il est obligé de faire la série. Et vous êtes... confiant ou arrogant, je ne sais pas, mais vous dites c'est pas grave, on va quand même le signer parce que c'est lui pour le personnage.
Mais oui, je n'en ai pas d'autre. Oui, oui. Et à la moitié du tournage, de notre tournage, on nous annonce qu'il fait la série et qu'on n'a plus l'enfant. Et qu'ils ne nous aideront pas, et on a dépensé 14 millions de dollars. Alors là, j'ai eu du mal à finir ma journée, je peux vous dire.
Ça, j'imagine. Et puis surtout, vous essayez de contacter des avocats en disant, on peut s'arranger, soyons intelligents entre producteurs, entre créateurs, justement, entre la série. Et là, ils sont violents, ils font, mais no way,
rien
il est à nous.
Il est à nous, tant pis pour vous, vous avez pris le risque. Donc on a tourné les dimanches, les samedis, voyagé en hélicoptère, ils dormaient la nuit, on trichait quoi.
Avec une doublure.
Alors, plein de doublures. Parfois, il donne la réplique à d'autres acteurs. Il est sur un fond vert. Il a incrusté après. Enfin, cauchemar total.
C'est-à-dire que c'est la tête, c'est le bout de l'oreille, c'est la nuque d'un autre enfant. Voilà. Mais tout est tourné le soir, le week-end. Il y a un hélicoptère qui attend. Voilà. C'est-à-dire qu'il a droit à une ou deux prises, pas plus, parce qu'il doit prendre un hélicoptère. Il doit partir pour aller sur le tournage de la série qui a le contrat dominant, entre guillemets, entre vos c'est deux ça. Contrats.
Mais en fait, ce qui est merveilleux chez l'être humain,
et on
c'est
s'en
que...
rend pas du tout non, compte on quand on voit le film, c'est ça qui est
c'est qu'à l'arrivée, finalement, on oublie tous les mauvais souvenirs. On garde que ce qui est bon. C'est bizarre, ça. On
évacue ça devient presque des bons souvenirs, maintenant, de le raconter, non?
Ouais.
Sur le moment, j'imagine.
Sur le moment, pas vraiment. Hein. Ouais.
Non, mais ça a dû exploser le budget du film.
On n'a pas tant dépassé que ça, on s'est bien débrouillé quand même.
Ouais. D'accord, parce que c'est colossal. À chaque fois, les budgets dont vous parlez, c'est colossal.
Oui, mais
c'est notre époque, j'ai l'impression.
Mon agent vient de me dire que j'avais mauvaise réputation, mais non pas parce que je dépasse les budgets, mais parce que je suis exigeant artistiquement et qu'on peut rien me dire. Vous rendez compte, il y a 10 ans, ça aurait été un compliment.
En fait, vous êtes cash dès le début, vous dites, ça va coûter, voilà ce à quoi ça va ressembler, parce qu'il y a un storyboard, donc déjà, vous vendez de l'image par l'image et pas par des écrits ou par de la tchatch. Vous dites ce que ça coûte, et après, vous tenez votre budget.
Je suis un enfant de l'après-guerre, je suis né en 1953, donc moi il fallait finir l'assiette, hein, il ne fallait pas laisser des nouilles au fond de l'assiette, il fallait éteindre la lumière en sortant d'une pièce.
Vous parlez de la crème brûlée dans Amélie Poulain, où vous forcez toute l'équipe à finir les crèmes brûlées pour ne pas les gâcher.
On a dû en casser pas mal pour avoir la bonne prise, donc on n'allait pas les jeter quand même, ça ne se jette pas de la nourriture.
Ça se fait pas.
Tous ils me disaient, ça va, on n'a plus faim, c'est bon.
Oui, mais il faut finir.
D'ailleurs, c'est l'illustration, parce que le bouquin est aussi illustré de petits dessins d'humour faits par Charlie Poppins, qui en fait est Romain Segaud, qui a fait les animations de mon court-métrage Deux escargots s'en vont, que vous pouvez voir sur YouTube, d'après un poème de Prévert, parce que je suis un grand fan de Jacques Prévert.
De deux choses l'une, l'autre le soleil.
Pardon ?
De deux choses l'une, l'autre le soleil, qui est dans Parole de Prévert. L'une des citations, des souvenirs, l'un des souvenirs que vous avez dans le livre, et je me demande si tout n'est pas parti de ce fameux soir des Césars, me semble-t-il, où vous racontez au pupitre l'anecdote devant le Café des Deux Moulins, où vous êtes avec Jodie Foster, et où des touristes...
Alors celle-là, elle est dure à raconter à la radio, parce qu'il y a un geste. Effectivement, on attend un taxi avec Jodie Foster, et puis des jeunes arrivent pour faire une photo du Café des Deux Moulins, comme toutes les 4 minutes, ça dure encore aujourd'hui.
Absolument. Et vous êtes entre
le café et la photographe. Alors, elle, évidemment, elle a fait un signe de la main pour nous dire, vous pouvez sortir du cadre, s'il vous plaît.
Et donc, cette personne avait Jodie Foster, Jean-Pierre Jeunet, devant le Café des Deux Moulins, c'est-à-dire une photo qui vaut de l'or, en souvenir.
Elle l'a raté.
Et elle a plutôt dit, non, vous pouvez vous enlever là tous les deux, ne reconnaissant ni l'une ni l'autre. Quoi. Ouais. Donc, je voudrais faire une photo de l'enseigne quoi, et de la porte-vie.
Il y en avait une autre anecdote, mais celle-là, je n'ai pas pu la mettre dans le livre parce que justement, elle est mieux à la radio. C'était une institutrice belge avec une classe d'enfants qui monta le café. Alors moi, je vais la voir, je lui dis, mais madame, comment osez-vous montrer un café à de 6 jeunes enfants? Mais monsieur, c'est là qu'a été tournée Amélie Poulain. Je lui dis, mais non, madame, mais si, monsieur, je vous assure.
Pardon,
elle est dans
le bouquin.
Oui, mais elle est moins bien.
Vous devriez lire Jean-Pierre. Il y a plein de trucs là-dedans.
Vous racontez même que ce qu'a fait les Deux Moulins, en fait, vous n'avez jamais été invité à vous asseoir à table pour boire, consommer un truc.
Il m'invite jamais. Il m'invite jamais.
Mais c'est plus les mêmes.
Ouais, mais après,
le mec, il a fait une bascule. Je te raconte pas au niveau de la marge et du chiffre d'affaires. Il a vendu le fond. Il s'est régalé.
1200 crèmes brûlées d'Amélie par semaine. C'est sérieux.
C'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est à la fois l'histoire d'un môme. Voilà, c'est un môme avec ses parents et qui rêve de faire du cinéma et ses parents lui offrent un projecteur Super 8 et il découvre. Enfin, c'est une histoire vraiment d'un être humain, d'un gamin au milieu d'une famille qui découvre une passion et qui grandit à un niveau mondial ou interplanétaire. Et puis, ce sont des histoires de tous les films que nous connaissons et que vous avez réalisé ou co-réalisé avec Marc Haro, avec le petit bout de la lorgnette comme on l'aime. C'est pas des ragots, il n'y a pas de mépris, il y a beaucoup de respect, il y a quelques petits règlements de compte, mais
quelques critiques
qui sont des vannes.
Quand même, mince, t'as pas de raison. C'est aux éditions Leitmotiv, et c'est mon frère en fait qui édite ça, qui édite des livres de cinéma.
C'est ce que vous avez
courageux de sa part, parce que
au scénario,
ça se vend
notamment.
Plus beaucoup. Oui, exactement, nos scénarios.
Et c'est ce que vous dites d'ailleurs en ouverture du livre, c'est comment refuser à mon frère d'écrire un livre dans sa boîte d'édition. Leitmotiv, donc, Jean-Pierre Jeunet, l'illustration de Charlie Poppins, 500, je me souviens, anecdotes de tournage, et c'est extrêmement agréable à lire. J'espère, Jean-Dominique Besnier, que vous avez compris pourquoi Jean-Pierre Jeunet était
notre invité. Ce que je sais, mon cher Nagui, c'est que Jean-Pierre Jeunet semble avoir beaucoup plus de mémoire que vous.
Ah bon ?
Alors, ok, depuis le début de l'émission, je vous entends vous échanger sur ces incroyables 500, je me souviens. Et pourtant, tout à l'heure, dans le bureau, les commentaires que vous faisiez à JLB, notre rédacteur chef, chérie, étaient moins élogieux. J'étais là. C'est quoi ce bouquin, JLB? Ok, il y a plein de passages écrits très gros, mais comment veux-tu que je lise tout ça en 5 minutes? Même les dessins, j'aurais pas le temps de les regarder. Vous inquiétez pas, oh mon bon maître, pas taper. Comme d'habitude, je vous ai rédigé une fiche complète, ce qui, une fois de plus, va vous permettre de faire illusion avec brio. Mais ce titre, Ce titre, il est vraiment zarbé, non? C'est un clin d'œil à Je me souviens, le célèbre livre de Pérec. Ah, Marie-Jo, je savais pas qu'elle avait écrit ses mémoires. Voilà, cher Jean-Pierre Jeunet, comment je prépare la bande originale. À ce sujet, j'ai juste un service à vous demander, une sollicitation.
C'est pas facile à dire.
Dans le chapitre consacré à Delicatessen, page 82, je vous cite, hein. Je me souviens d'une formule pour diriger Jean-Claude Dreyfus, qui a tendance à en faire beaucoup. SSS, simple, sobre et sombre. Fin de citation. Bah écoutez Jean-Pierre, ce serait vraiment sympa si vous pouviez persuader Nagui de suivre cette prescription pour ses chaussures. Merci, bonne émission.
Ça, c'est vrai.
Merci. Ça va pas,
non ? C'est mexicain.
Sur France Inter.
Leïla, tes oreilles ont sifflé quand on t'a dit que Jean-Pierre Jeunet venait dans cette émission.
Oui, et quand je pense à vous, Jean-Pierre Jeunet, je pense à une révélation. C'était en 68. Vous êtes en vacances au Sable d'Olonne. Et vous entendez, vous voyez ça.
Ah ouais, le choc.
La grande vadrouille.
Sacré film.
La musique d'Ennio Morricone pour Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson. Et même quand on regarde au scénario, il y a Sergio Leone, il y a Dario Argento.
Absolument,
et
oui.
Bernardo Bertolucci.
Absolument, oui.
Et vous en parlez dans le bouquin et dans les interviews aussi, en disant que voilà, il y avait, c'était un peu la prescription pour vous, le cinéma que vous vouliez faire. Pourquoi
ça a été un choc énorme. Mais en fait, comme je racontais tout à l'heure, j'ai eu envie de faire avant de voir.
Ouais.
Ça a été probablement le premier film que j'ai vraiment vu. Et je ne l'ai pas vu quand il est sorti parce que je n'avais pas assez d'argent de poche. Donc j'ai attendu au Sable d'Olonne où il y avait des vieilles copies 35 toutes pourries qui repassaient pour 4 francs, vous voyez, genre. Et là, je n'ai pas pu parler pendant 3 jours. Mais vraiment, j'étais en état de choc. Et mes parents me disaient « Mais qu'est-ce que t'as ? T'es malade ?» Je leur dis « Vous ne pouvez pas comprendre.
» Et c'est quoi ce choc, en fait ?
C'est tellement incroyablement fort au niveau esthétisme,
ouais.
Par la bande-son, tout le début, avec tous les petits bruitages quand les cow-boys attendent à la gare, les idées visuelles de cadrage, des focales courtes, les gros plans en cinémascope des yeux de Charles Bronson. Les focales courtes, c'est les objectifs très, très, très courts, où tout est net derrière, avec tout le décor derrière. C'est difficile à expliquer, tellement c'est évident
moi. Non, c'est ça. Et puis après, il y a d'autres... À l'inverse, on peut avoir un visage extrêmement clair et tout ce qui est derrière tellement flou qu'on ne sait
et
même
détaché,
pas
où on se retrouve. Ouais. Vous parlez d'un cinéma où on voit la caméra.
On la sent, oui. On sent que, en fait, le thème des films de Sergio Leone, c'est le plaisir de faire des films. C'est
oui.
Le cinéma lui-même, en fait. Et il n'y a pas un film que j'ai fait où il n'y a pas au moins un plan qui rend hommage à Il était une fois dans l'Ouest, dans Delicatessen. La caméra recule, découvre les pieds du boucher qui va terroriser la vieille dame avec son araignée. Ça vient directement des bottes de Clint Eastwood.
Et le train qui part avec, et on voit derrière.
Et on voit derrière Charles Bronson. Ouais. On a vu ça aussi dans La fille de Ryan, formidable film de David Lean. Et je l'ai pompé dans T.S. Pivet aussi.
C'est ça, avec la camionnette et
voilà.
Non, vous l'avez pompé, c'est un hommage, c'est un
clin
d'œil.
C'est un hommage, bien sûr. Oui.
Voilà.
Mais ça vraiment, faut
c'est
être spécialiste pour s'en rendre compte. C'est pour ça que je dis, je peux l'avouer moi.
C'est un clin d'œil.
C'est un clin d'œil. Et vous êtes toujours fan. Est-ce que c'est le genre de film que vous revoyez régulièrement? Je me demande.
Ah oui, oui, absolument.
C'est un rendez-vous dans l'année.
Ça vieillit pas ces films-là.
Alors moi, j'étais terrorisé quand ils ont ressorti le Blu-ray parce que je n'avais pas vu depuis des années. Quel bonheur de voir que je pleurais exactement au même moment. Pas pleurer d'émotion artistique. Comme La leçon de piano de Jane Campion, j'étais en larmes à la fin. C'est pas un film extrêmement émouvant, mais c'était le génie de la metteur en scène, de la réalisatrice qui m'a fait pleurer. Quoi. J'étais pas beau à voir, hein, j'étais caché sous le siège.
En position fétale.
On va parler de musique encore évidemment avec, je pense que vous avez déjà entendu Gotham Project.
Ah ouais, j'adore.
Eduardo, Philippe et Christophe ont formé donc Gotham Project, c'était en 99, et il y a eu plusieurs albums. Puis Eduardo et Christophe ont créé un nouveau projet qui s'appelait Plaza Francia. Maintenant, ça devient Plaza Francia Orchestra. On va en parler ensemble. Ils sont en tout cas live aujourd'hui avec nous dans ce studio avec un premier titre qui s'appelle Barbara Monica et la voix de Catherine Ringer.
Oui. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, también. ¿Y tú también? Muy bien, sí.
¿Qué vas a cantar?
Sí, sí.
Bárbara Mónica.
Bárbara Mónica, sí.
María Alejandra Menéndez Beetti de Alza Gonzué. Se felicito completo.
Oui.
Ah ouais, et ça veut dire ?
C'est son nom, elle s'appelle Barbara Monica.
Maria Alejandra
Menéndez Beretti de Alza Gaunzué.
C'est autre chose que Nagui.
Barbara Monica Maria Alejandra Menéndez Beretti de Alza Gaunzué nació en un palacio francés en La Pampa y nunca en la vida se hizo ni un pie. Barbara Monica María Alejandra Menéndez Beretti de Alza Gaunzué nació en un palacio francés en La Pampa y nunca en la vida se hizo ni un pie. Semana pasea su ajada elegancia por las escalinatas de la Plaza Francia y en la Recoleta siempre pone flores en la noble cripta de sus antecesores. Bárbara Mónica María Alejandra Menéndez Beretti de Alza Gaunzué. Prefiere quedarse en su casa para no ver tanto hippies, no ver tanto grasa. Siempre le queda el recurso de irse a la estancia donde los jazmines regalan su fragancia. Bárbara Mónica María Alejandra Menéndez Beretti de Alza Gaunzué. Bárbara Mónica María Alejandra Menéndez Beretti nació en un palacio francés en La Pampa y nunca en la vida se hizo ni un té.
Plaza Francia Orchestra. Vous m'aviez dit, Eduardo, qu'elle existait, cette place France.
Oui, oui, tout à fait. C'est une place à Buenos Aires, un hommage de la France à l'Argentine.
Alors, parlons du tango, parce que c'est un style de musique qui est né au XIXe siècle et qui est un mélange de tellement d'influences, de tellement de racines, de tellement de religions, j'ai presque envie de dire, que c'est un symbole fort pour aujourd'hui de montrer ce métissage.
Oui, c'est l'Argentine, en fait. L'Argentine est un pays d'immigration et le tango est né de l'immigration et de la rencontre entre les Afro-Argentins qui en avait, ouais. Et les créoles et tous les Italiens, les Juifs.
Voilà, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Juifs qui fuyaient les pogroms, les Africains qui...
Qui étaient des esclaves.
Qui fuyaient voilà, l'esclavagisme. Tout ça donne cette musique. Alors, est-ce qu'on peut, Christophe, dire que le tango parle de quelle émotion ? On dit souvent que le fado, par exemple, c'est la mélancolie, la nostalgie. Est-ce que le tango, c'est un style musical ou c'est aussi des valeurs et une pensée ?
Oh, c'est plus qu'un style musical, c'est toute une culture. C'est la culture du Rio de la Plata, c'est pas que Buenos Aires, c'est aussi Montevideo qui est de l'autre côté du Rio de la Plata. Donc c'est plus une pensée, c'est ce qu'on respire là-bas, c'est la nourriture même. Il y a un peu tout, mais un petit peu comme le fado, il y a quand même un côté déracinement, enfin de mélancolie est quand même assez présente de les gens qui ont quitté leur pays. Et je pense que ça se ressent là-dedans aussi.
Sur l'album, c'est un nouvel album, hein, parce qu'il y avait déjà eu un projet que vous aviez fait ensemble il y a 5 ans. C'était à ce moment-là que nous en avions parlé avec déjà Catherine Ringer. Cet album avait même été disque d'or. Là, vous revenez avec de nouveaux titres, donc Cabale. Hein. Ils seront en tournée le 9 juillet à Autran, le 21 à Montbrisson, le 28 à Vic-Fezensac, le 13 août, ça sera à Budapest, à Sziget, le 15 août au Luxembourg, le 22 septembre à Cannes, en novembre à Plaisir, Mérignac, à la Cigale Paris, ça sera le 27 novembre le concert parisien, le 29 janvier, on est en 2019, à Blagnac, ensuite en mars à Nancy, puis à Ablon, Tounon, Mulhouse. Catherine Ringer, vous serez de la tournée aussi parce que vous êtes vous aussi en tournée avec Chronique et Fantaisie, donc comment vous organisez ?
Et moi, je termine un petit peu cette tournée de Chronique et Fantaisie au mois de septembre et je vais faire quelques dates avec eux, dont celle de la Cigale à Paris.
D'accord, la tournée, justement, Catherine, c'est avec cet album.
Je me coule en automne et pense au printemps quand les fleurs s'époumonnent.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de Plaza Francia Orchestra ? Parce que j'imagine que des projets, on doit vous en proposer régulièrement, des participations, des featuring, des guests, des invitations, appelons ça comme on veut. Et pourquoi eux ?
La qualité musicale, le plaisir de chanter du tango, le plaisir de chanter en langue espagnole et l'idée de peut-être aller un petit peu... faire un peu à l'étranger avec eux. Et là, dans la chanson que vous avez passée, il y a Eduardo Makarov qui joue de la guitare.
Donc c'est un renvoi, un retour. C'est beau, oui. C'est beau l'amitié, oui. Finalement.
Hein. C'était un hasard, l'élection de la chanson ?
Non.
Non.
Ah, non. Ça non. S'appelle du professionnalisme.
Oui, je n'avais pas étudié le script.
Ahora salimos con el ocho.
J'adore ce titre. C'est un tube, ça.
Ah oui. Ça, c'est...
Attends, on l'écoute 2 secondes, toi.
4, 5, 8, para atrás.
On imagine déjà les remixes, on imagine des soirées endiablées, parce que ça donne envie de danser, ça. On dit comment ? Classé des tangos ?
Exactement, c'est classé des tangos.
Alors, vous vouliez dire pour vous ce titre-là ?
C'est Pedro Saborido.
Il y a une voix.
Une voix extraordinaire, un humoriste, un écrivain aussi, un producteur, un réalisateur de cinéma aussi. Et Pedro Saborido fait un personnage qui s'appelle El Professeur Acoso. C'est pour ça qu'il met une voix spécialement sexy.
Voilà, elle est belle comme tout. Très bon album, Plaza Orchestra. Non, je vais vous dire maintenant, Plaza Francia Orchestra. Il faut rajouter l'orchestra qui n'était pas avant. Hein.
C'est pas marrant.
Voilà, c'est aujourd'hui, c'est l'invité principal.
Et on est 3 chanteuses sur cet album, en fait.
C'est vrai. Alors j'ai plus. Si, je les avais les noms des chanteuses. Vous pouvez m'aider ?
Il y a Laura, une chanteuse capverdienne magnifique, qui est un peu dans les pas de Cesaria Evora. Elle est magnifique. Il y a Catherine Ringer ici présente, bien évidemment, que vous connaissez tous. Et il y a une nouvelle recrue. que vous ne connaissez pas encore, Maria Muliterno.
Maria Muliterno.
Tout à voilà, avec voilà. Qui on va chanter
tout à l'heure, t'es prohibé. Absolument. Et puis il y aura également une reprise que vous allez nous offrir.
C'est celle-là qu'on va chanter ensemble.
La reprise de Sarah Vaughan, vous l'avez faite ensemble.
Voilà.
Et après, Maria chantera seule, t'es prohibé.
C'est ça.
Parfait. Tu vois qu'on arrive à comprendre.
Mais oui.
Quand on explique bien. Merci oui. Mille fois d'être là, en tout cas.
Merci à toi. Merci à
D'ailleurs, à propos de musique, vous avez réalisé des clips pour Étienne Dao, Tombé pour la France, Zoulouk pour Jean-Michel Jarre. C'est un exercice intéressant pour un réalisateur comme vous d'avoir la contrainte d'une musique et de la durée, comme, entre guillemets, pour une réclame, comme vous dites.
Ouais, c'était il y a longtemps, mais j'en ai refait un il n'y a pas si longtemps pour Gauvin, ça.
Exact, ah, ouais.
Ouais. Alors là, c'était, je ne pouvais pas dire non, parce qu'il citait Amélie Poulain dans la chanson.
Pourvu.
Pourvu,
ouais. Voilà, c'est vous qui avez réalisé Pourvu. Ouais. Exactement. Voici, mais oui, Alessandre Bouillard, mais je te regarde dans les yeux.
Merci. Bonjour à tous. Bonjour Nagui, bonjour la France. Vous le savez, nombreux sont les jeunes qui, abandonnés par Parcoursup, vont chercher un job d'été afin de se payer un tatouage tribal dégueulasse qu'ils vont regretter de 3 mois après. Et comme aujourd'hui, avoir des parents Premier ministre ne suffit plus pour être compétitif sur le marché du travail. Rien ne vaut un bon CV. L'occasion est donc toute trouvée pour mettre le nez dans certains CV et autant vous dire que ça sent pas bon. Albert, je vous rappelle qu'une coloscopie, c'est pas un examen scolaire, c'est un examen médical.
Vous êtes sûr ?
Ça n'a rien à faire dans la catégorie diplôme, enfin. Je sais combien il est difficile de se retrouver face à cette feuille blanche. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui souffrent en rédigeant leur CV et qui ont eu un jour le cœur brisé par un DRH. C'est mon curriculum vitae.
Yeah. Harrison est dans la place.
Les jours passent mais tu n'y arrives pas à rédiger ton CV. C'est vrai, y'a tellement de choses à ne pas faire. C'est clair, y'a tellement de pièges à éviter. Sauf si tu es le fils du PDG. Choisis bien ta meilleure photo d'identité. Donne envie au RH de te recruter. Évite la photo où t'étais déguisé en Hitler l'année dernière, bourré sous LSD. Vérifie ton adresse, ton numéro. Oublie ton email et tes vieux pseudos. Ce que t'avais quand t'étais en galère, petit zizi du 95 @caramel.fr. T'essaies de te montrer sous ton meilleur jour, comme un cocu candidat aux amours. T'essaies mais rien n'y fait, ça ne veut pas, ça ne prend pas, tu n'y crois pas. Ton curriculum vitae. T'essaies de te montrer sous ton meilleur jour, comme Jérôme Cahuzac devant la cour. T'essaies mais rien n'y fait, ça ne veut pas, ça ne prend pas, tu n'y crois pas. Ton curriculum vitae.
Yeah.
Si tu n'as pas un bon parcours scolaire, mon frère, invente-toi un diplôme imaginaire, un master ou un bachelor en marketing de l'air, de ta mère la boulangère, option grecque le millionnaire. Parle de tes expériences professionnelles, pas du shit que tu vendais à Sarcelles. Que tu adores les heures supplémentaires, les affaires, que ton frère s'appelle Bruno de Maire. Dis-leur que tu parles anglais couramment, même Jeanne Birkin a la moins bon accent. Et si on te demande tes centres d'intérêt, le salaire, l'IRTT et les jours fériés, t'essaies de te montrer sous ton meilleur jour, comme un puceau qui va bientôt faire l'amour. T'essaies mais rien n'y fait, ça ne veut pas, ça ne prend pas, tu n'y crois pas. Ton curriculum vitae. Oh, yeah, 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 yeah. Ooh, curriculum vitae.
Bravo.
Merci. bien ça.
Sur France Inter.
Toujours là pour aider les gens.
Pas sûr que tu trouves de boulot. 500, je me souviens, anecdote de tournage.
Mais moi, je vous le raconterai pas comme ça. Hein.
Mais c'est gentil. ça nous rend service en même temps. C'est publié chez Leitmotiv, signé Jean-Pierre Jeunet, avec les illustrations de Charlie Poppins. Aussi bien la vie du petit Jean-Pierre que la carrière du grand Jeunet, avec aussi des moments forts, des films évidemment qui ont marqué l'histoire du cinéma. On va en parler justement dans la bande originale en s'intéressant aussi aux musiques que vous aimez, que vous écoutez, Jean-Pierre Jeunet, notamment en fin des années 70. Matumbi, vous écoutez ça, vous pensez à quoi?
Je pense que c'est la seule façon que je puisse danser. Et là, vous voyez le maximum, je suis au taquet, là, vous voyez? Je suis capable de faire ça, c'est-à-dire je bouge le cou. Voilà.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
Comment vous avez découvert cette musique? Elle vient.
Je sais pas, je pense que le reggae, c'est la première musique que j'ai écoutée en dehors des 45 tours de musique de film que je piquais au magasin Runé à Nancy.
Donc c'était vraiment les BO, c'est vraiment ce qui t'intéressait.
Oui, oui. Bah oui, parce que j'étais trop axé sur le cinéma. Quoi. Donc j'ai la première musique, c'était. Moi, c'était pas le punk, c'était le reggae.
Matumbi. Okay.
Et dans ces années-là, 74-75, il y a deux rencontres capitales. C'est Marc Caro à Annecy.
Ouais.
Et Manuel Otero.
Ouais. Manuel Otero, c'était un réalisateur d'animation et j'étais son grouillot, donc j'ai appris plein de choses, à l'assister au montage, l'exigence, à balayer le studio et à porter les copies à la gare, voilà, je faisais tout.
Et vous dites que vous l'avez abordé au culot?
Dans un hall de cinéma où il collait des affiches, voilà, avec le cœur qui battait et je tremblais.
Et Marc Caro, quel souvenir vous avez de sa rencontre? C'était au festival du film, du dessin animé.
Oui, d'animation d'Annecy, oui.
Lui, il avait un magazine, c'est ça?
Il avait inventé un petit magazine qui s'appelait Fantasmagorie, que j'ai repris par la suite avec André Iqbal, et on a fait ça pendant des années. Et il venait, quand il venait à Paris, il dormait dans ma chambre de bonne, par terre, et on essayait de dormir malgré le chauffe-eau qui faisait gros toute la nuit.
Et on sent à ce moment-là, quand on rencontre des personnes qui vont être déterminantes pour la suite, que ça va durer longtemps. Est-ce qu'on a un pressentiment? Vous parliez de pressentiment dans le bouquin, que ce soit Amélie, Audrey Tautou, ou vous, dans le fait que vous alliez devenir, vous alliez réaliser un film à Hollywood et qu'elle serait un jour au César. Est-ce que là, vous le sentez quand vous l'avez?
Disons qu'il y avait le désir de faire, comme je disais, de travailler ensemble, donc de commencer par des films d'animation qui étaient plus à notre portée que de faire des films avec des acteurs.
Mmh. Enfin, sauf que Amélie Poulain, au début, enfin, je ne sais pas si on en parle, si tu veux en parler plus loin, mais Amélie Poulain, au début, ce n'était pas Audrey Tautou.
C'était Emily Watson, une actrice anglaise qui jouait dans Breaking the Waves, qui m'a laissé tomber, comme ça arrive parfois, deux mois avant le tournage.
Après, vous avez proposé à Vanessa Paradis.
Oui, qui préparait un disque, donc elle ne l'a même pas lu. Et puis après, j'ai
ça, c'est violent, ça, non?
Bah, je crois qu'elle le regrette un petit peu, d'après ce que j'ai entendu dire.
Il y a de quoi, parce que le film
mais ça va tellement bien,
a fait quoi, pratiquement 40 millions de spectateurs, sans compter ceux qui ont les DVD qui se le repassent entre eux. Mais
on m'en avait rajouté 7, mais sympa, c'est merci.
C'est quoi, c'est 33?
33 sur le monde.
C'est énorme.
C'est pas
énorme. C'est énorme.
Divisez-le en nombre de stades de France en train de se vider. Là, on se rend compte.
C'est ce que vous faites aussi quand un film marche moins bien.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. En rappelant aussi, vous le racontez dans le livre, qu'après avoir fait Alien, vous faites donc enfin Amélie Poulain, même si dans la chronologie, vous aviez Amélie Poulain en tête avant d'accepter de faire Alien. Les producteurs, le patron de...
Tom Rothman.
Voilà, Tom Rothman. Vous avez dit, mais je vais... Produisons ton prochain film, même si c'est un film en français. Vous lui proposez Amélie Poulain et là, un comité de lecture vous accueille.
Même pas, je suis reçu dans la salle, alors que j'ai pris l'avion quand même exprès pour Los Angeles, et on me dit, il y a un petit problème Jean-Pierre, voilà, le service marketing a dit, c'est pas Titanic. J'ai dit, ben non, c'est Amélie à Montmartre, c'est sûr que c'est pas Titanic, au revoir. Et c'était terminé, j'ai repris l'avion dans l'autre sens.
Ah ouais, c'est fou.
Mais après, quand Tom Rothman l'a vu projeté, qu'il a su le succès grâce à Miramax quelque part, il postillonnait comme il pouvait faire, et je pense qu'il a viré tout service marketing le lendemain, à mon avis.
En 91, vous écoutiez Massive Attack. Ça peut être une BO, ça.
Ouais,
on voit des images quand on entend ce genre de musique.
Chaque film s'écrit avec une musique, je sais pas pourquoi, qui souvent ne correspond pas du tout au film, d'ailleurs. Je me souviens avoir... Amélie, je pense que c'était Hans Zimmer pour Gladiator. Vous voyez, des trucs qui n'ont rien à voir.
Bah, pourtant.
Ah oui, mais je connaissais pas encore à l'époque.
Ça, c'est venu après les images.
Je pensais à Michael Nyman. On l'avait contacté, on l'avait rencontré. Il avait l'air de s'en foutre un petit peu.
Aussi.
Et un jour, je vais au tournage et la petite conductrice me met un disque d'Ian Tiersen dans la voiture, un peu en pensant, voilà. Et j'ai appelé ma productrice et on dit « Arrête tout, j'y ai trouvé !»
1991-92, dans cette période, Leïla.
Vous remportez le César du meilleur court-métrage pour Foutaise, avec Marc Caro, qu'on évoquait tout à l'heure.
Avec Marc Caro. Pas du tout. Erreur.
C'est pas avec Marc Caro.
Jusqu'à là, ça se passait bien.
Ah ouais,
j'étais en confiance, je me disais, mais quelle bonne émission. Et c'est en une seconde, tout par terre.
C'est le manège que vous
avez
co-réalisé.
C'est le
manège que vous avez co-réalisé avec Marc Caro.
Avait sculpté les petites têtes des marionnettes. Je fais une petite parenthèse pour dire que tout ça est exposé à la Halle Saint-Pierre en ce moment, jusqu'à fin juillet.
Ouais.
Une exposition formidable. Il y a 300 costumes, objets, storyboards, et qui va aller après à Lyon, au cinéma miniature et cinéma de Lyon.
Et dans ces années-là, vous réalisez aussi votre premier long-métrage. Et on y arrive à Délicatessène. Avec Dominique Pinon, qui est un acteur fétiche, toujours, pour vous. Enfin, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que quand il parle de vous, il est toujours très, très ému.
Ouais.
Avec Karine Viard, Tiki Olgado, Jean-Claude Dreyfus.
Marie Lordoniac.
Ouais, tout un...
Moi, j'ai un petit truc à dire, pardon, sur Tiki, parce que j'avais la chance d'être pote avec ami, même, c'est le mot qu'il faut employer, avec un mec aussi vrai, aussi sincère. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ce que vous avez fait sur le long dimanche de fiançailles. Vous vouliez tourner avec Tiki Olgado, qui avait le cancer qui était en train de le ronger. Les assurances, sachant que le cancer allait gagner ce match d'une manière lâche, je parle du cancer, mais aussi des assurances, n'ont pas voulu assurer Tiki Olgado en disant non, nous on vous suit pas là-dessus. Et vous, par fidélité, par amitié, vous avez...
Échangé avec Dominique Pinon.
Grâce à Pinon, c'est qui a accepté,
Pinon,
surtout.
Ils
ont échangé les rôles, ça devenait possible, parce que le temps de tournage était plus réduit.
Aussi accepté, parce que des productions qui acceptent de tourner avec des acteurs qui ne sont pas, entre guillemets, assurés...
Je me suis quand même entendu dire, si on n'a pas Tiki, j'arrête le film. Là, ça a fait un petit choc quand même. Et Tiki, on est en Corse pour des repérages ou pour le tournage, et sur qui on tombe? Le médecin des assurances.
Punaise.
Et là, j'ai vu un moment chaud. Le médecin emmenait pas large, quand même. Ouais. En même temps, il faisait son boulot, mais quand même, c'était dur, quoi.
Et malheureusement, Tiki n'a jamais vu.
Il est mort pendant le tournage.
Le film.
C'était dur. En plus, il était sous médoc et tout, c'était dur.
Non, mais voilà. Donc, que ce soit à Dominique Pinon ou à vous, il y a des mecs bien sur terre. Et c'est bien de le souligner aussi.
Et Délicatessène, pour revenir au film, a remporté de nombreux prix, dont 4 Césars, c'est bon, je dis pas de bêtises.
Oh, la pression.
Ah, là, tout d'un coup, j'ai un peu, voilà. dont le meilleur première œuvre, meilleur décor, meilleur montage, meilleur scénario.
Alors, meilleur scénario, il y a Piala qui faisait la gueule. C'était l'année de Van Gogh, il nous faisait la tête.
1997, vous écoutiez un groupe que j'adore, Everything But The Girl. C'est par un abandon que Jean-Pierre Jeunet se retrouve à la tête d'Alien.
Finalement, c'est Danny Boyle.
Tête d'Alien, je ne sais pas si c'est une bonne phrase.
Oui, Danny Boyle devait le faire,
L'anglais Danny Boyle dit Niet. Et c'est là que vous arrivez dans la course pour le 4e épisode.
Tous les jours au tournage en écoutant ça, Everything But The Girl, dans ma Ford Mustang décapotable avec les 8 haut-parleurs, le vrai blaireau californien et tout.
En allant tellement vite que vous en oubliez l'entrée du cinéma.
Un jour, c'est un acte manqué, j'ai oublié l'entrée du studio. Et pour moi, c'est teinté d'une espèce de truc d'un peu de tristesse qui correspond bien à Los Angeles. Une ville un peu flippante parce que on sait pas où marcher, c'est qu'une grande banlieue. Et j'ai, pour moi, cette musique correspond bien à cette période.
Et c'est vrai que vous trouviez ennuyeux Alien,
le scénario.
Oui,
c'était un film d'action un peu bête. Et donc, je me suis empressé, avec l'aide de Sigourney Weaver, de transformer les scènes d'action en scènes un peu arty. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un film arty, ce qui est un très, très gros mot à Hollywood. Il n'a fait que 50 millions de dollars, alors que Joss Whedon, l'auteur, aujourd'hui, avec ses Avengers, fait des centaines de millions de dollars. Mais bon, c'est pas vraiment ma tasse de thé, Je suis quand même très fier d'avoir fait un film arty européen à Hollywood, avec le support des producteurs qui voulaient produire Amélie après derrière,
Et comment vous êtes arrivé dans cette histoire?
Eh ben parce que ils avaient beaucoup apprécié La Cité des Enfants Perdus, qui avait été un petit peu, un peu critiqué lors de l'ouverture du Festival de Cannes.
Un peu boudé en France.
Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur français, m'avait dit: vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse. Et c'était un peu ça.
C'est encourageant.
En sortant, il m'avait dit: vous avez eu de la chance, aucun strapontin n'a claqué, personne n'a sifflé. Estimez-vous heureux.
Non, mais il y a eu quelques projections, notamment à Cannes, où personne ne nous a laissé la parole.
C'est ça. Après la voilà, ouais, c'est personne ne nous parlait. Ouais, on ne pouvait même pas rentrer à la boîte de Canal+, alors qu'on venait de faire l'ouverture.
Alors que les Américains avaient apprécié. Et du coup, c'est comme ça que vous en arrivez à devoir réaliser ce quatrième opus en remplacement de Danny Boyle.
Sans parler un bon anglais. Donc j'ai compris l'histoire quand j'ai reçu le DVD avec des sous-titres quelques années après.
Vous dites même qu'à Cannes.
Ah bon, c'est vrai.
Je plaisante à moitié. Ah bon, mais à moitié. Hein.
Vous dites même qu'à Cannes, tout le monde a retenu Jeanne Moreau et Vanessa Paradis en train de chanter et pas la projection du film qui venait juste derrière.
Oui, c'est vrai. Peu la gueule.
Toutes ces anecdotes avec ce sourire en coin à la Jean-Pierre Jeunet, c'est dans 500 Je me souviens, anecdotes de tournage aux éditions Leitmotiv, c'est vraiment extrêmement agréable et riche enseignement d'ailleurs, quoi que vous fassiez dans la vie pour aussi ne rien lâcher, savoir ce que l'on veut et avoir de la mémoire, pas de la rancune, pas de la rancœur, mais de la mémoire, il faut juste savoir ce qui s'est passé dans la vie, qui on a croisé, dans quelles conditions. Retour dans la bande originale de Plaza Francia.
Señoras y señores, bienvenidos a Plaza Francia. Símbolo porteño de la elegancia, clase y distinción en el exquisito barrio.
Alors, tout à l'heure, nous avons entendu avec Catherine Ringer. Catherine a eu la gentillesse de revenir accompagnée de Maria Muliterno ensemble Plaza Francia Orchestra nous offre une reprise de Whatever Lola Wants, c'est une reprise de Sarah Vaughan, c'est dans la bande originale.
Give it.
Bravo.
Maria Munterno avec Catherine Ringer et Plaza Francia Orchestra pour cette reprise Whatever Lola Wants. Ils reviendront tout à l'heure dans la bande originale avec un nouveau titre extrait de leur nouvel album mené par Muller et Makarov, autrement dit Eduardo et Christophe, le cœur de Plaza Francia Orchestra. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Monsanto, c'est fini, ça existe.
Eh oui, terminé. Yannick Jadot en a dit trop de mal, mais aussi des gens qu'on écoute comme moi. Hein. J'ai dénigré le glyphosate dans mes chroniques et je m'en veux parce que j'ai pourri la marque. Du coup, Bayer, qui s'est marié avec Monsanto, l'a tué. Monsanto rejoint Raider, Prise Unique et le PS au panthéon des marques disparues.
On en reparle après les infos de midi. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec Léla Kadoboudali, Alison Wheeler, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Albert Algout, tout à l'heure en live, Plaza Francia Orchestra, et notre invité est Jean-Pierre Jeunet.
Bravo.
Oui. 500, je me souviens, des anecdotes de tournage, c'est chez Leitmotiv. Ce livre, vous l'avez fait parce que votre frère est l'éditeur, mais il y a aussi, j'ai presque envie de dire, un devoir de transmission. Peut-être que ça vous aurait fait du bien, vous, de lire un livre comme ça dans votre enfance, ça vous aurait encouragé en vous disant « c'est possible, on peut y arriver ».
Ah, sans doute, oui. Parce que quand j'étais gamin, il n'y avait rien, il n'y avait même pas les VHS à l'époque. Donc pour comprendre comment se faisaient les films, il fallait grimper au dernier étage de la bibliothèque du lycée Poincaré à Nancy pour choper des bouquins pleins de poussière. Et dedans, on trouvait une ou deux photos.
Ce que vous faisiez.
Voilà, avec du grain comme des patates.
Le projecteur Super 8 a été un déclic offert par vos parents.
C'est une caméra Super 8.
Pardon, caméra,
c'est oui. un ami de mes parents qui est arrivé à la maison avec une caméra Super 8. Il m'a dit, bah tiens, essaye. Et je peux vous dire, je me souviens de tout. La vibration, l'odeur du plastique, le bruit du prrr. Oui. Et je l'ai retrouvé sur eBay il n'y a pas longtemps. Je l'ai comme un objet fétiche. Et les éclairs sont tombés du ciel sur ma tête. Et j'ai compris qu'il suffisait d'avoir une caméra pour être metteur en scène. C'est comme ça que j'ai démarré. Et donc j'ai travaillé au PTT immédiatement, comme mon père. J'ai installé des centraux téléphoniques dans l'Est de la France pour pouvoir m'acheter la caméra, la visionneuse, l'écran. Et voilà, j'ai commencé comme ça.
Alors, même à la caserne, même à l'armée.
Ouais, l'armée, non, justement.
Vous tournez un peu, vous emmenez votre caméra à 16 minutes.
Non, au contraire.
Ah bon, moi je pensais
qu'ils
étaient OK.
Ils m'ont dit, ah, vous avez une caméra, bah, vous allez filmer, on va faire des petits films pour expliquer au bilas. Ouais. Et moi j'ai dit, oui, bah, moi j'étais considéré comme insoumis, donc non.
Ouais.
Pas de problème, section de combat.
C'est ça. Alors que ce soit le bunker de la dernière rafale, que ce soit les publicités que vous ayez faites, Délicate et Saine, La Cité des Enfants Perdus, Alien, Amélie Poulain, vous parlez des films que vous avez réalisés. Je pense aussi à Micmac, ou encore à ce T.S. Spivet, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Mais vous parlez aussi d'un film que vous n'avez pas fait.
Ah oui, Histoire de Pi.
Life of Pi,
ouais. J'ai quand même travaillé des années dessus. Hein.
Mais oui, mais alors pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que là, par contre, vous ne dites pas exactement. Vous dites,
et puis, c'était juste une question de coût. On avait fait une adaptation avec Guillaume Laurent, avec qui j'ai écrit Amélie, et c'était une vraie adaptation. Ce n'était pas juste un copier-coller du bouquin, comme c'est le cas avec le film d'Angly. Et toute la Fox l'adorait, l'auteur l'adorait, et simplement, c'était trop cher. Donc,
vous étiez trompé entre l'euro et les dollars?
Non, c'est-à-dire qu'ils m'ont demandé de le produire moi, et on l'a fait une étude européenne, et c'était le prix qu'ils voulaient, mais en euros. Et entre la différence entre l'euro et le dollar, c'était le pire moment, à l'arrivée ça coûtait aussi cher.
Donc il n'y avait pas d'erreur dans du change, non. Mais c'était pas le bon moment.
Donc j'ai abandonné, et finalement Angli l'a fait pour le double du prix. Comme quoi, avec un copier-coller du film.
Il aime bien ça quand même, Jean-Pierre Jeunet. Il y a deux, trois tacles à vous de les découvrir dans le livre, sur des critiques, sur d'autres, des gens de ce métier, toutes professions confondues. Mais c'est toujours drôle. Alors après, j'imagine que ceux qui sont concernés le prendront mal.
Les critiques, j'en ai pas fait une tonne parce que j'aurais pu faire un livre entier dessus. Donc ça mérite pas.
Non, mais par exemple qu'on accuse Amélie Poulain d'être un film d'extrême droite, j'arrive pas à comprendre d'où ça sort.
C'est un critique qui s'est fait une réputation sur mon boulot, tout simplement.
Ouais.
Ah, il y a une anecdote formidable. Je suis pas sûr de l'avoir mis dans le bouquin.
Bah, dites-nous, on va vous le dire.
On est à la prison de la santé. On est à la prison de la santé.
Si, vous le racontez dans le livre.
Ah, je le raconte. Et alors, il y a un tôlard. Les mecs, c'était des sérieux, qui avaient fait 20 ans de tôle. Ouais. Et il me dit, mais c'est quoi cet article de merde, là, du mec des Inrockuptibles?
C'est formidable, ça.
Mais alors, attends, si tu veux, on te fait un contrat, sur lui. Gratuit.
Gratos.
Ouais.
C'est génial.
Et j'ai jamais su si j'ai sauvé la peau de Kaganski ou pas, finalement.
C'est ça, il était aux Inrockuptibles, c'est ça.
Mais oui.
aux inrecuptibles. Le mec en prison qui dit, moi, je fais un contrat gratuit.
Il trouvait cet article tellement crapuleux qu'il voulait lui faire la pause.
C'est incroyable. Mais ça, on verrait ça dans un film, on croirait pas.
Oui.
C'est, voilà.
Et au Brésil, on m'a raconté qu'il y a des taulards, mais alors des tatoués, des tueurs. Quoi,
des purs, des durs.
Voilà. Quand ils sont trop énervés, leur passe Amélie, c'est la seule chose qui les calme. Alors, j'imagine les gros tatoués en train de chialer en regardant Amélie, ça me fait hurler de rire quand même.
La vraie vie, la fabuleuse vie de Jean-Pierre Jeunet, c'est dans 500, je me souviens, anecdote de tournage aux éditions Leitmotiv. Voici Tanguy Passureau qui m'attend un peu là. Donc, Monsanto, enfin la marque, c'est fini.
Oui, Monsanto, c'était cette boîte qui a créé le glyphosate numéro 3 des inventions qui ont nui à la planète, derrière l'extraction du gaz de schiste et la soirée spéciale Les Baudins sur Paris 1ère. Le glyphosate, vous en aspergez sur un Yorkshire du 16e, il perd tous ses poils. Et Anne Hidalgo, le voyant, s'écrie « Oh, un rat, bienvenue à Paris, ici c'est chez toi ». Grâce au glyphosate dont les paysans arrosent les cultures, on n'a plus d'insectes. Celui qui survit plus de 12 minutes dans la bosse, ça veut dire que c'est un warrior. Il peut terminer les derniers djihadistes en Irak juste avec son dard. Comme il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux parce qu'ils s'en nourrissent et on est peinard à la cambrousse entre humains. Le seul bruit de bête, c'est celui de notre tante Josiane quand elle crie à table du chou au glyphosate. Ensuite, on crache par terre et ça fait un gros trou. On découvre alors un cimetière mérovingien enfoui, donc on rebouche avant que Stéphane Bern déboule et exproprie le champ de betteraves. Le glyphosate, c'est donc super pour ceux qui détestaient la monotonie des chants d'oiseaux, qui de génération en génération produisent tous le même bruit, comme les gens qui font du reggae. Mais à cause de 4 écolos et 3 humoristes conscients, l'image de la marque Monsanto s'est dégradée, telle celle de Plastic Bertrand quand on a découvert que c'était pas lui qui chantait sur ses disques. Mais un chat atteint d'un cancer en phase terminale s'étant en plus coincé les bourses dans la porte du salon. Monsanto s'est donc terminé. La marque Bayer, qui a fusionné avec, l'a annoncé trop sulfureux, trop controversé. Le glyphosate, c'est le Éric Zemmour des pesticides. Et c'est malin de leur part, parce que José Bové, là, se retrouve comme un con avec un stock de 700 t-shirts fuck Monsanto, invendable à la fête d'attaque. C'est comme si Macron décidait qu'il n'avait plus de nom. Qu'est-ce qu'il dirait Alexis Corbière dans les manifs? Non à la politique de... Ça n'aurait pas un impact dingue, hein, donc comme aujourd'hui. Alors que Bayer, c'est vaste. Ils font des médicaments pour animaux. Hein, quand une chèvre, par exemple, dit à son légionnaire qu'elle a la migraine, hop, un cachet d'aspirine, elle belle de plaisir. Ils font aussi des crèmes contre les vergetures. Nous, on s'en fout, mais Shakira, ça peut foutre en l'air sa carrière. Et également des pilules contraceptives. Alors qu'il suffit de regarder une prestation des Kids United reprenant des mises ressources pour ne jamais avoir envie de se reproduire.
Ouais, ils auraient pu aussi travailler sur l'image de Monsanto, conserver la marque.
Oui, bah, c'est long, mais c'est faisable. En 1943, Bayer, justement, firme allemande, achetait des cobayes au camp d'Auschwitz pour des expériences médicales. Et aujourd'hui, on les connaît parce qu'ils vendent de l'aspirine. Donc tout est jouable. Hein, les Khmer Rouges, s'ils s'étaient accrochés, auraient pu créer le hand spinner. Hein, c'est une hélice qu'on fait tourner sur le doigt. On peut le faire aussi avec celle du moteur d'un bateau, mais juste une fois. Et résultat, on zappait tout leur crime parce qu'ils faisaient rêver 3 kids. Bayer, niveau déontologie, partait de très très loin. Ils ont commercialisé des contraceptifs dangereux, ont écoulé du sang contaminé dans les années 80. Michel Fourniret au tribunal, s'il avait dit « Ouais, mais regardez, Bayer, tout ce qu'ils ont fait, ces enfoirés », le juge lui aurait répondu « T'as raison, t'es libre, Mimi. Pardon, on pouvait pas savoir que t'avais avoué que 11 meurtres. À côté de Bayer, t'es oui, mon pote. » Et aujourd'hui, Bayer a une image nickel, au point qu'il s'inquiète de celle de Monsanto qui a fait clamser 14 sauterelles. Ou 14 milliards, mais bon, peu importe. La solution, dès qu'il y a un problème, est donc de changer de nom. Ainsi, Manuel Valls, dont l'image est détériorée, pourrait choisir de s'appeler Benoît Hamon. Hein, le nom est déjà pris, mais l'autre n'en fait rien. Gérard Collomb, qu'on accuse d'être inhumain dans sa politique migratoire, si demain il dit « je ne suis plus Gérard Collomb, mais Babacar Diop », eh ben les associations antiracistes, elles se retrouvent le bec dans l'eau. On a toujours changé les noms. Quand je lis un Marc Lévy, sur la couverture, je barre Marc, j'ajoute Strauss, et là je dis « je suis sur un Lévi-Strauss ». C'est fascinant le rapport qu'il fait entre nature et culture. Et tout le monde se dit « Pastureau, il va finir à Arte ». Le glyphosate, ça reste une saloperie. Mais maintenant, il n'y a plus de marque, juste le glyphosate. Hein, c'est comme de s'étouffer avec des panzani et de se battre après contre les nouilles en général. Ça n'a aucun impact. Alors bien joué Bayer, et tant pis pour Beauvais.
Bravo. Merci Tony.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Retour de Plaza Francia Orchestra. Catherine Ringer sur ce projet de Plaza Francia Orchestra avec ce titre Barbara Monica également. Et et beaucoup d'ambiance. Maria chante aussi Tranquillo.
Tranquillo.
Tellement sexy.
No pasa nada.
On l'a pas dit tout à l'heure, pardon, quand on a parlé du tango, Eduardo. C'est très sexy quand même.
Oui, c'est sensuel. Émotionnel.
Ah, sensuel, ouais, c'est plus
ouais, élevé. C'est parce que je suis habitué à répondre à cette question.
D'accord, très bien. Je ne reposerai plus, mais maintenant j'ai la réponse.
Non, c'est sexy aussi.
D'accord. Te prohibo, ça se traduit quoi? Je t'interdis?
Je t'interdis, et en fait, les paroles de cette chanson, c'est « Je t'interdis, te prohibo que te mueras antes que yo ».
Je t'interdis de mourir avant moi.
Exactement, une déclaration d'amour très bref.
Et c'est Maria Muliterno qui va chanter avec Plaza Francia Orchestra.
Thank you.
Plaza France Orchestra, Te Prohibo avec Maria Moliterno. Merci mille fois. Eduardo, Christophe, Lalo, Pablo, Romain, j'ai oublié personne, et saluons quand même Catherine Ringer aussi, qui a eu la gentillesse de venir prêter sa voix à deux chansons. Elle est en tournée avec son album Chronique et Fantaisie. Elle sera tout le mois de juin, elle passera par Nantes, Neuchâtel, Évreux. On va mettre toutes les dates sur notre site internet. Le 6 juillet, elle sera à Albi, et puis elle finira le 14 septembre à Paris à la Fête de l'Humanité. Et Plaza Francia Orchestra également en tournée avec cette date parisienne du 27 septembre, où Catherine Ringer a déjà dit qu'elle sera au rendez-vous de la Cigale, mais des dates aussi qui vont passer par toute l'Europe pendant cet été. Là aussi, nous mettons les dates sur le site internet. L'album Tango Electro est sorti à peine depuis quelques jours. Il est en vente libre et il est extrêmement agréable à entendre. Merci madame, merci messieurs. Je t'interdis de mourir avant moi. C'est beau ça. Je dis exactement la même chose à Daniel Morin. Oui, parce que j'ai deux choses à faire que venir à ton enterrement. Voici Daniel Morin.
Bon, ici tout le monde est au courant, quand on s'engage, c'est pour tout défoncer, c'est pour gagner. Ici, on le sait mieux que nulle part ailleurs. Nagui, c'est un winner, Nagui, c'est un champion. Il est arrivé sur France Inter pour péter les scores, il n'envisage pas l'échec. C'est pour ça qu'il s'est entouré des meilleurs qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui autour de la table. Mais bon, là n'est pas le problème. Hein. Eh ben, Emmanuel Macron, c'est pareil. Hier, il a déjeuné avec l'équipe de France de foot pour les encourager. Le message était clair. Une Coupe du Monde réussie, c'est quand elle est gagnée.
C'est vrai.
Sous-titre, si on vous envoie là-bas, c'est pas pour aller chanter Kalinka, bourrer la vodka dans des bars à hôtesse, bande de branleurs millionnaires, vous allez vous bouger le cul et mettre une tôle à tout le monde. Oh, j'imagine la rencontre. Bon les gars, le sport, c'est bien. La victoire, c'est mieux. Le premier tour, je vous rappelle que vous jouez contre le Danemark, un pays grand comme la Seine-et-Marne, et dont les habitants bouffent du caribou. Hors de question que vous perdiez contre le Danemark. Vous jouez aussi contre l'Australie. L'Australie, où on pratique le foot les jours où il n'y a pas assez de vagues pour faire du surf. Contre l'Australie, même en jouant sur une jambe, vous devez gagner. Quant au Pérou, j'en parle même pas. Un pays du tiers-monde dont les habitants pour animal de compagnie, le lama, un bestiau qui crache à la gueule, même une équipe de sénateurs pourra leur mettre une branlée. Oh, moi, quand je me suis lancé dans la course à la présidentielle, c'était pas pour finir éjecté au premier tour, comme le petit Hamon ou le pauvre Fillon. Non. Je les ai tous pliés, les tocards. J'ai été très clair, j'ai dit à la France, fini la politique à papa. Faut du sang neuf, et moi du sang, j'en ai plein les veines. Et du bon, du vitaminé, pas du coupé à la nisette, comme tous les vieux qui m'entourent. Pour moi, la compétition, c'est pas un sport propre. C'est un coup de pied dans les testicules, fourchette dans les yeux, coup de genou dans la gorge. Et la dernière ligne droite, j'ai accéléré. Pas de pitié pour la grosse blonde. Je l'ai humiliée au second tour. Carbonisée la Valkyrie de Saint-Cloud. Atomisée la Jeanne d'Arc des petits fachos. Humiliée, je vais marcher dessus. J'ai franchi la ligne loin devant. Je suis rentré chez moi avec la coupe. J'ai réussi ma compétition. J'attends la même chose de vous, bande d'incultes analphabètes. Brigitte et moi, la garde d'une partie du 14 juillet. On veut du champion du monde et c'est tout. Les losers, on n'en veut pas. Et me parlez pas de la beauté du sport, à toutes les conneries du style, l'important c'est de participer, que le principal c'est le beau jeu, bref, toutes ces phrases de bobo, gauchisme, hétérosexuel, c'est la coupe du monde, merde, c'est pas la foire du trône. Sur ce, bonne coupe du monde. Si vous ne gagnez pas, je veux plus jamais voir vos gueules. C'est pas ce qu'on peut appeler un coup de pression, c'est juste des encouragements un peu poussés, c'est tout. Allez, à demain.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Mais c'est vrai que l'important c'est de gagner. Hein.
C'est... Ah ben, ça, on est d'accord.
Mais c'est vrai que le ton sur lequel il a dit. En plus, je crois qu'il a dit je vais aller voir tous les matchs à partir des demi-finales. Ça veut dire deux matchs, quoi. La demi-finale, la finale. Je trouve ça formidable. Vous alliez à Marcel Picot voir Platini. Vous êtes fan de foot.
Ouais,
vous y croyez à cette Coupe du Monde française en Russie?
C'est possible ou pas? Je sais pas pourquoi, mais cette année, je suis moins dedans. J'ai pas raté un match de l'Euro il y a deux ans. Ouais. Cette année, je sais pas pourquoi. On nous prépare mal, j'ai l'impression. Non, je sais pas.
Oh, ça va, vous avez encore une dizaine de jours avant de vous mettre dans le bain. On parle de vous, on a parlé de vos souvenirs, ils sont écrits chez Leitmotiv dans 500 Je me souviens, mais quels sont vos rêves? Parce que vous vivez de rêves aussi et de projets,
mes rêves,
vous avez envie de quoi?
Ça serait très simple, c'est d'arriver à faire un nouveau film.
Mais on a du mal à penser que vous ayez du mal à le faire.
C'est bizarre, hein. Ben parce que la plupart des gens disent en lisant mes scénarios, ah oui, on voit pas bien comment on va le vendre. Hein, encore une fois, c'est le marketing qui parle. Mais je vais arriver, mais au lieu de prendre un mois, ça prend deux ans.
Le marketing, ça fait presque partie des reproches qu'on a pu vous faire aussi. C'est-à-dire
tête de costard-cravate, là, qui sort d'une école de commerce, là. Il y a marqué HEC, là, ou
non,
quoi?
Non, mais d'un coup, Amélie Poulain, c'est devenu culte au point d'avoir des produits, marketés derrière.
Bon, ça, c'est pas en France, en tout cas, parce que les Français sont trop nuls pour ça. Mais effectivement, au Brésil, il y a des espèces de petites poupées au Japon, il y a des trucs.
Il y en a un petit peu. L'économie autour de ces objets.
Mais pas en France. En France, on n'a pas su. juste l'épicier Collignon à Montmartre qui a fait un disque. L'épicier a fait un disque formidable quand même.
C'est génial.
Oui. Non, mais mais c'est vrai que le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. Jean-Paul Gaultier me racontait qu'il y a des gens du marketing qui lui expliquent comment faire ses costumes. Michel Troisgros, le chef, m'expliquait que la chaîne Casino, on lui a dit non, votre plat, ça va pas pour le marketing.
C'est fou,
à l'Express, hein. C'est le marketing qui choisit la couverture.
Et vous n'avez pas
dans tous les domaines.
Et vous n'avez pas le pouvoir d'aller au-dessus, au-dessus, et peut-être même avec des productions étrangères. Si,
oui,
si la France
je traduis en anglais pour le moment, et je vais essayer les Netflix, les Amazon, tout ça. Mais la langue française, c'est ma langue, c'est un peu dommage.
Et vos envies sont d'aller vers de la science-fiction, de la 3D.
Alors j'ai un projet sur l'intelligence artificielle, mais sous forme de comédie. Celui-là, il est très marrant. Un autre sur le désir, la sensualité, le sexe. Ça tombe pas bien en ce moment. Je sais pas pourquoi.
Pourquoi donc?
Au contraire.
Avec l'affaire Weinstein.
Ça n'arrête pas.
Il y a un lecteur.
Les gens n'ont pas arrêté de faire l'amour depuis Weinstein. Enfin,
c'est clair, c'est ça bon. T'arrête pas. Ça.
On peut reprendre.
Il y a un lecteur de Amazon, un américain qui a lu, il a dit, oh, j'étais choqué. Il écrit, on voit les tétons qui pointent à travers les t-shirts. Vous voyez,
on voit très bien.
Américaine.
On adore ça, nous.
Ouais, j'aime pas les t-shirts.
Quand il fait froid.
En tout cas, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter, Jean-Pierre Jeunet.
Bah, merci.
Vous venez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici. 500, je me souviens.
Je vais rester.
Ah bah restez. On avait besoin de bons dans l'équipe. C'est publié chez Leitmotiv. 500, je me souviens des anecdotes de tournage. Demain, je sais même plus. On fait quoi? Demain, c'est Patrick Chesnay ou sont mes yeux?
C'est
Anna. Non, Patrick Chesnay, ce sera vendredi.
Ah, c'est Anna Girardot et c'est Judith Chemla. Pour le Champs-Élysées Festival Film.
Absolument.
Les Rolling Stones qui viennent chanter. Vous allez vous régaler.
Voici les carnets de campagne. À bientôt, Jean-Pierre. Merci.
Eh ben, de rien.
Voici les carnets de campagne avec Philippe Bertrand.